tellement inexpérimenté avant de jouer dans ce film. Il a découvert du jour au lendemain ce que c'était que de tenir le premier rôle. C'est ce qu'il a confié au micro européen de Caroline Baudrière.
Ce qui m'a plus marqué, c'est de me rendre compte de la place qu'occupe un acteur principal dans un film. Dès qu'on n'est pas bon ou dès qu'on doit aller faire pipi, et ben on fait attendre tout le monde. Et qu'en fait, ça fait perdre de l'argent et du temps à tout le monde. Tout le monde compte sur vous. Personne ne peut vous remplacer. Et donc, il ne faut pas tomber malade, il ne faut pas se faire mal, il ne faut pas faire de conneries. Mais bon, on a envie de se sentir libre. Alors quand même, on prend la mobilette du pote et puis on fait des tours devant l'équipe et tout le monde est affolé et se dit « Mais non, qu'est-ce que tu fais? Attention les assurances !»
Et on pense pas assez souvent ça quand on va faire pipi.
Attention les assurances.
On peut faire perdre de l'argent.
Attention aux assurances.
C'est un génie Godard.
Et Guillaume Marbeck, l'un des favoris. Il est fabuleux dans ce film, ainsi que les autres comédiens. L'un des favoris peut-être pour le César de la meilleure révélation masculine. Les Césars, on en reparlera bien sûr avant la grande soirée du vendredi 27 février, puisqu'Europe 1 est partenaire de Canal+, qui diffusera cette 51e cérémonie. C'est les 50 ans, mais c'est la 51e cérémonie.
Vous parlez à un grand fan de Godard, hein, Raphaël Mézeri, hein, Julien Pichenet.
Moi, je l'ai rencontré, Godard, justement, à Cannes, Festival de Cannes, à l'époque. On a parlé que de haut-parleurs pendant une demi-heure. Il m'a dit, t'as vu, c'est un scandale, ils auraient pu mettre des JBL. Et j'ai dit, je sais, c'est n'importe quoi. C'est quoi ce son dans l'auditorium?
Ça aurait été un bon client pour vos interviews. Il serait rentré dans le jeu.
J'en sais rien, mais en tout cas, il était brillant. Moi, j'aime les gens brillants. Ouais. Après, on l'aime pas, c'est pas grave, mais plutôt, c'est un mec formidable. Enfin, c'est Godard.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30, avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas.
Oui, je reçois ce matin un homme étonnant, Raphaël Mézrahi. Ouais. Et alors, vous étiez en train de nous raconter quelque chose qui me paraît complètement dingue, là, pendant la pub. C'est que vous fouillez les poubelles des boîtes de production.
Ah oui, parce que les boîtes de production, avant, il y avait des trucs qui s'appelaient les cassettes. Donc, ça prend une place énorme. Donc, en général, ils ne savent pas quoi en foutre. Donc, ils les jettent. Donc, moi, je récupère. Et c'est celui qui a récupéré qui ça appartient.
Ouais, bien sûr. Et qu'est-ce que vous en faites?
Mais surtout, il y a plein de cassettes qui ont été stockées n'importe où. Pardon, je m'étouffe. Ouais. Dans des caves avec de l'eau, de la moisissure, tout ça, etc. Donc, avec un pote, on a trouvé un moyen de pouvoir restaurer et sauver toutes ces bandes magnétiques. On a fabriqué un four à 60 degrés linéaires pendant on a changé les composants, les fours d'hôpitaux, quoi. Pour les scalpels, tout ça. Donc, on a changé les composants pour être à 60 degrés linéaires pendant 8 jours.
Pour restaurer ces bandes magnétiques.
Ouais, pour retirer les moisissures, pour assécher les moisissures, pouvoir tout décoller au cutter, centimètre par centimètre. Ensuite, on digitalise au fur et à mesure. Comme ça, on optimise la qualité. Ensuite, on travaille avec le logiciel d'intelligence artificielle. Et là, on a...
Vous avez restauré quoi, alors, par exemple?
Premier spectacle de Danny Boone que personne n'a jamais vu. Premier spectacle d'Eli Kaku que personne n'a jamais vu. Premier spectacle de Boujna, de Django Edwards, de... Fatalement, j'ai...
Tout ça était à la poubelle.
Oui, Salvador Dali chez lui en vacances à Cadaqués. Incroyable. J'ai le tribunal des flagrants délires en vidéo réalisé par Raoul Sangla qui a été... Alors là, c'est un truc de dingue. C'est que la bande magnétique, il y avait une pellicule de mousse qui était là pour protéger la bande magnétique du couvercle. Mais il y a eu un effet chimique. Mousse, bande magnétique, ça s'est transformé en glu. Donc toute la bande a été recouverte de glu. Donc ils l'ont jetée. Je peux la récupérer. Donc la marque, c'était 3M Scotch multinationale américaine, donc bon, j'appelle les États-Unis, je dis vous avez trouvé une parade, parce que si c'est arrivé à Paris sur cette pauvre bande, c'est arrivé sur des milliers d'autres bandes aux États-Unis, ils m'ont dit oui, ils m'envoient la fiole, on loue un banc de pouces et je nettoie centimètre par centimètre, je digitalise et je sauve le tribunal et flagrant délire.
Vous voyez que vous êtes passionné par beaucoup de choses, pas uniquement les animaux.
Ouais, j'aime pas l'à peu près parce que c'est facile de jeter. Moi, je suis sur Terre pour. J'aime la sauvegarde, j'aime sauver ça, en fait. Et le patrimoine. Ouais. Là, je bosse sur la sauvegarde d'un pigeonnier du XIIIe siècle, par exemple. Ça, c'est autre chose, ça n'a rien à voir.
C'est un autre projet.
J'aime parce que c'est trop facile. L'être humain vit, jette. Ouais. C'est pas ma vie, c'est pas ma notion de vie. Si je peux aider, j'aide, mais qui que ce soit et quoi que ce soit.
Et on peut les voir, ces bandes vidéo, quelque part?
Alors oui, il y a une plateforme sur MyCanal qui s'appelle Les Trésors de Raphaël Mézrahi. Il y en a quelques-unes, il y en a 9. Mais je continue à en faire de plus en plus. Et ce qui est formidable, c'est que La Nuit des Déprimes, je la diffuse sur France 4. Ouais. J'adore France Télé et j'adore Canal. Donc, et ce qui est bien, c'est qu'il y a... Non, mais moi, je ne savais pas, il y a un pont entre Canal et France Télé.
C'est vous le pont.
Et ben, tant mieux. Voilà, si je peux amener quelque chose, vive Canal et vive le service public.
Et alors justement, sur le service public, ce soir sur France 4, on aura le droit à la 11e nuit de la déprime, c'est à 21h. 11 ans de déprime, ça va pas mieux.
Ah non, mais c'est de pire en pire en ce qui me concerne. Mais autrement, non, mais la nuit de la déprime, c'est si vous aimez le son, la musique et les musiciens et chanteurs de talent.
Ça, c'est de très haut niveau.
Ah oui. Ah oui, oui, bah il y a, oui, dans le genre, oui, il y a rien au-dessus. C'est le nombre de nommés et qui ont gagné des Victoires de la musique, qui ont gagné des et puis je sais pas, on rend hommage à Nicole Croisy, par exemple, son dernier passage, c'était chez moi. Donc je fais venir Claude Lelouch sur scène qui présente Nicole Croisy. On diffuse l'extrait. Il y a Pierre Lapointe, il y a Roland Romanelli, à accordéoniste de Barbara, il y a Alexandre Tarot qui est un des plus grands pianistes concertistes de la planète.
Oui, il y a un casting incroyable parce que alors la
marraine c'est Catherine Ringer.
Voilà, c'est ça, Catherine Ringer.
Ah oui.
Cadmera Della, c'est pour Cadmera la première chanson. Ouais, les yeux de ma mère.
Hommage à Arnaud avec Dans les yeux de ma mère.
Ça, on est tout de suite dans la déprime, là, c'est parfait.
Tout de suite avec Anne Gravois au violon. Non, non, ouais. C'est plutôt très.
Nolwenn Leroy, Cali, Benabar.
Thomas Dutronc.
Nicoletta.
On va en oublier. Pierre Lapointe.
Et alors, pour moi, le plus beau moment de la soirée que j'ai eu la chance
Richard
de
Cochiante.
Regarder.
Ouais,
bah, voilà.
Évidemment.
Richard Cochiante.
Alors, on se promènera.
Chanson Marguerite.
Quelle merveille.
Ouais, c'est vraiment une émotion à chaque fois. Et là, il est au piano, sur scène. Ça se passe dans le cadre des Folies Bergères, aussi, qui est une salle absolument magnifique.
Ouais, les Folies Bergères, ils sont tellement super avec moi depuis toujours. Quoi. C'est vraiment, c'est un vrai partenaire, les Folies Bergères. Ouais. Sans les Folies, il n'y aurait pas la nuit de la déprime.
Et alors, c'est une condition que vous leur mettez de ne chanter que des chansons un peu tristes? C'est quand même le principe de la soirée. Ouais.
Ah ben c'est la soirée, puis il faut être au premier degré.
Faut rien de dansant, quoi.
Non mais moi c'est un pied de nez à toute cette morosité ambiante. C'est-à-dire qu'on distribue des mouchoirs à l'entrée aux spectateurs, on offre des sacs de 3 kilos de croquettes pour chat et chien. Donc tous les spectateurs repartent avec des croquettes, quoi. Mais oui, parce que c'est voilà. C'est
puis quand vous leur dites ça va Paris, il faut répondre non, quoi.
Il faut dire non. Oui. Alors ceux qui savent pas, ils disent ouais. Non mais on est toujours les mecs, alors ça va, vive Paris. Enfin, je sais pas, tous les dans les trucs de stand-up, enfin tout ce que.
Et puis vous êtes au milieu de ça, présenter cette soirée à votre manière, un peu décalé. Moi j'ai beaucoup aimé ce moment.
Daniel Lavoie.
Ah non, au moment où vous rendez hommage aux produits disparus.
Oui, je rends hommage aux produits qui nous ont quittés, ouais.
La VHS, les télécartes.
Les Tritz, les Triscottes, puis on a
les Tritz.
Prise unique.
On a mis Bayrou aussi cette année.
Et voilà, et François Bayrou, ouais, évidemment. J'ai trouvé ça très bien. Non, c'est vraiment une soirée. C'est drôle et émouvant aussi par moments. Est-ce que vous considérez, vous, que écouter toutes ces chansons déprimantes, ça fait du bien? C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Moi, j'ai l'équivalent de 20 000 albums à peu près chez moi, parce que je suis un mystique de son et vraiment, j'adore. C'est ma vie, quoi, vraiment. Et c'est essentiel. Et j'ai eu l'idée en écoutant Nicolas Perra qui chantait Marie l'inexorable. Exceptionnelle chanson. C'est que c'est l'histoire d'un couple qui entre à la maison avec leur gosse et il pleut beaucoup, donc il monte et il va au grenier et il se prend une poutre et il reste coincé. Il explique que l'eau monte inexorablement et que la maison n'en a plus pour longtemps. À la fin, tout le monde meurt. Et bon, je dis tiens, c'est assez marrant comme chanson. Et donc je l'appelle. Si tu veux pas venir chanter Marie, il me dit oui. Après j'appelle Enrico Macias. Si tu veux pas chanter, j'ai quitté mon pays. Après j'appelle Alice Donat. Tu veux pas chanter, je suis malade.
Tout le monde vous dit oui, j'ai l'impression.
Tout le monde m'a dit mais c'est à mourir de rire. On vient parce que il faut être au premier degré évidemment. Hein. Ouais. On peut pas être moyen. Non, il faut être à fond. Moi je suis chef d'orchestre de tout ça. Quoi.
Et il faut expliquer que tout ça permet d'être reversé à une association, à des associations.
Je reverse toute la billetterie à plein d'associations pour animaux. C'est-à-dire qu'on a reversé plus de 250 000 euros en 10 ans à plein d'assos et qui existent et qui vivent. C'est des assos connues qui ont pignon sur rue et des petites assos de quartier également. Hein, parce qu'il y en a plein qui me disent « Ouais, vous pouvez nous aider ?» Puis de temps en temps, je dis « Ah bah oui !» Donc je mène un peu l'enquête parce que...
Vérifier quand même ce qu'il y a derrière.
Évidemment, comme partout, il y a des assos, et puis, mais celles avec qui je travaille, vraiment, elles sont extraordinaires.
C'est vraiment la cause de votre vie, les animaux.
Oui, parce qu'ils ne peuvent pas trop s'exprimer. Maintenant, si c'est pour ça, donc j'aide. Mais après, j'ai monté un orphelinat à Madagascar il y a quelques années aussi, qui existe toujours et j'en suis content.
J'imagine que vous avez été touché, Raphaël Mezrahi, par la disparition de Brigitte Bardot.
C'était mon amie.
Récemment.
Brigitte, c'était. Et mon ami, on a fait des opérations ensemble. J'ai sauvé deux ânesses qui ont été tirées à bout portant avec le cerveau qui sort d'orbite par un connard en Belgique, un propriétaire. Et donc j'apprends ça et donc j'interviens, j'appelle la Fondation Bardot et on s'est associés pour sauver les deux ânesses qui sont en vie. Elles se portent bien et je suis parrain des deux ânesses. Elles sont en Normandie. On a sauvé deux tigresses aussi avec la Fondation Bardot qui sont en Touraine, qui venaient d'Ukraine parce que à l'époque en Ukraine, je vais pas rentrer dans les détails, mais
vous-même, vous vivez entouré de plein d'animaux alors.
Ouais, et là j'ai perdu un chat il y a une semaine, écrasé par par un chasseur impunément comme ça. Voilà, c'est un scandale, c'est une honte. Et voilà.
L'un de vos 18 chats, je crois, c'est ça.
Ouais, j'en ai 17, mais bon, je vais en récupérer d'autres et tout. Mais je les sauve, hein. Je sauve qui je peux sauver, hein.
Ouais.
Chat, chien, j'ai un couple de chouettes effraies aussi. J'ai même un nid de frelons. Pas loin de mon lit.
Ah oui.
Oui, parce que
pas
ça.
Pas loin de votre lit.
Oui, parce que ça.
Bien sûr.
Oui,
alors
non,
que enfin, tout le monde veut s'en débarrasser, mais vous.
Tout le monde. Alors moi, je le garde, et maintenant, j'en suis à 2 ans, donc j'attends avec impatience l'arrivée du printemps, parce que les nids de frelons, en général, comment ça se passe? Le mec, alors, le nid arrive en mai, juin, donc il commence à se créer. La reine vit 46 jours, les autres vivent 22, 23, et meurent. Mais ils passent toute leur vie à fabriquer un nid. Moi, on va gagner un temps fou, je leur laisse le nid. Donc, je voudrais savoir comment ça se passe, parce que les frelons, ils n'ont jamais un nid à dispo. Là, ils ont un nid à dispo chez moi. Donc ça, c'est parce que je suis curieux. Je suis complètement taré en même temps. Mais
amoureux des animaux et de tous les animaux, c'est ce qu'on peut constater. Raphaël Mezrahi, cette 11e édition de la Nuit de la Déprime, donc présentée par Raphaël Mezrahi, ce sera ce soir sur France 4 avec donc Catherine Ringer comme marraine et beaucoup d'artistes géniaux.
C'est une soirée, c'est une très, très belle soirée. Je suis tellement fier de cette soirée. Je crois, on me connaît pour les interviews, mais c'est 5% de ma vie. Moi, regardez la Nuit de la Déprime si vous pouvez. Enfin, si vous aimez la musique. Et le talent, c'est vraiment là où tout le monde est au rendez-vous. Quoi.
Et d'ailleurs, dans le genre concert pour la bonne cause, j'ai vu aussi qu'il restait des places pour le gala des pièces jaunes jeudi soir à la Défense Arena. Et il y a des artistes de dingue comme Christina Aguilera, Gim, Charlotte Cardin, Bob Sinclair, Gauthier Capuçon.
Christina Aguilera?
Oui, je suis pas sûr qu'ils vont enchaîner Bob Sinclair et Gauthier Capuçon en revanche.
c'est marrant.
Très très belle programmation et une très belle cause puisque là, c'est pour améliorer le quotidien des enfants malades.
Très
gala
important.
Des pièces jaunes
très important.
Jeudi soir.
Bien sûr.
Merci beaucoup, Raphaël.
Merci
Mezrahi,
de votre accueil, c'est super.
Venu nous voir ce matin. Et alors donc, vous pouvez aller 2 étages plus haut.
Qu'est-ce qui se passe?
Il y a Pascal Praud qui vous attend.
Ah, il travaille là?
Ouais.
Ah, je vais y aller.
Et il aimerait bien que vous fassiez un tour.
Ah oui, parce que je l'ai connu à Nantes à l'époque.
Voilà, bah, n'hésitez pas.
Avec le FC Nantes, bien sûr.
On va vous accompagner.
Allez, merci, génial, Raphaël, Pascal.
Merci beaucoup.
Super.
Allez, restez avec nous sur Europe 1. Culture Média continue. Thomas Hill après les infos de 10h30.
Bah oui, dans un instant, on sera avec The Voice, l'une des plus belles voix du monde. Lara Fabian.
Ah, il vous embrasse, Lara.
Bah, vous allez pouvoir le faire. Tout de suite, elle est juste là. Elle nous dévoile son nouveau titre dans un instant.
C'est pas gentil, Jérémy, de faire ça et de mettre cette chanson-là de Lara Fabian. Ça me rappelle très mauvais souvenirs. Bon, tiens. Salut, Raphaël Mezrahi. Tiens, on parlait de coup de blues. Bah, que vous ayez un coup de blues ou un coup de boost, il y a une émission que vous pouvez écouter tous les soirs, 7 jours sur 7, sur Europe 1, de 22h30 à 1h du matin. C'est la Libre Antenne. Vous pouvez témoigner, partager vos expériences, vos histoires d'amour, d'amitié, vos peines de cœur, vos aventures sentimentales. Tiens, moi, je vais appeler ce soir pour parler de cette rupture avec la chanson de Lara Fabian. Je vais appeler le 01 80 20 39 21 pour dialoguer avec Roland Pérez.
Mais vous méritez pas, Lisa.
Merci beaucoup.
Bien sûr.
J'espère qu'il écoute ce matin et qu'il s'en mord les doigts. Allez, on l'embrasse, bien sûr.
Culture Média.
Thomas Hill.
Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Nous ont rejoint dans ce studio Monsieur Olivier Pouls pour parler gastronomie. Ça va, Olivier?
Bonjour les amis, mais ça va toujours très bien quand je viens vous voir et surtout
bien sûr.
Ma besace remplie avec un plat.
Il a toujours sa besace bien pleine, celui-ci. Et puis un nouveau venu dans Culture Média, Adrien Baget.
Bonjour Thomas.
Bonjour Adrien.
Bonjour.
Il travaille à la rédaction d'Europe 1 et Adrien, il m'a dit j'aimerais beaucoup venir vous parler du cinéma iranien. J'ai dit ok, il a dit ok. Du coup, il est là ce matin.
Ouais, c'est très sympa, merci de m'accueillir dans Culture Média.
Adrien. Et alors j'ai la chance de recevoir ce matin l'une de nos plus grandes voix qui est aussi, je crois, l'une des plus belles âmes de ce métier. Bonjour Lara Fabian.
Mais bonjour, mais quelle vie magnifique.
Merci. Merci d'être là. Mais non, mais c'est la troisième fois que vous venez. Donc là, vous entrez dans le cercle très fermé des meilleurs amis de Culture Média. Il n'y a pas grand monde. Il y a qui? Il y a David Hallyday, il y a Santa, il y a Pascal Obispo dans les chanteurs.
Carte gold de fidélité, là.
Attention, ça vaut cher.
Un rond de serviette à votre nom.
Oui, j'imagine que ça vous touche, ce rond de serviette, évidemment.
Et surtout le rond de serviette, moi qui suis une bonne fourchette.
Avant, on va en parler tout à l'heure avec Olivier Pouls, évidemment, de votre amour, de la bonne chair. Ce sera tout à l'heure. Mais alors, en ce moment, là, vous faites une tournée. Une tournée qui triomphe depuis 2 mois, Lara Fabian. Déjà plus de 100 000 personnes vous ont applaudi, notamment plus de 12 000 pour votre premier Accor Arena en décembre dernier. Alors c'est comment, Bercy? Parce que vous avez attendu longtemps.
Pour une première fois, c'est assez magique. Il s'est passé quelque chose d'infiniment plus grand, en fait, que moi, que tout ce que j'ai pu vivre.
C'était pas trop grand, justement ?
Non.
C'est ce qu'on dit parfois sur cette salle ?
Eh bien, je peux vous dire qu'il y a une sorte de convergence des énergies qui, dans cette salle, en fait, la façon dont elle est disposée, j'ai trouvé que c'était, oui, c'est grand, bien sûr, mais il y avait quand même quelque chose qui convergeait vers le cœur de cette salle. En tout cas, moi, j'ai pris tellement d'amour, j'en ai donné beaucoup, mais j'en ai pris énormément.
Et les du gens coup, vous étaient... y retournez le 10 mars prochain.
Le 10 mars, oui,
j'ai cette chance. Vous avez remis une date à Bercy, avec des surprises aussi, j'imagine, comme la dernière fois, parce qu'il y a eu pas mal de surprises.
Oui, il y avait pas mal d'invités. Tout à fait. Il y avait Vita, il y avait Slimane, il y avait Vianney qui n'était pas sorti de sa cabane depuis très longtemps et qui m'a fait l'honneur de sa présence. C'était assez fou. Et c'est vrai que faire Bercy pour la première fois après 30 ans de carrière, ça avait un goût très très particulier.
Et vous citez Vita, Vianney et Slimane qui ont participé à l'élaboration de votre dernier album. C'est Vita qui a écrit votre nouveau single qui sort aujourd'hui même et qui s'appelle « Je veux danser ».
On l'a écrit avec Renaud aussi.
On l'écoutera plus longuement tout à l'heure, cette chanson « Je veux danser » qui porte bien son nom parce qu'elle est up-tempo, comme on dit, nous les icônes.
Elle est entraînante.
Elle est assez électro, cette chanson, même c'est un pas de côté par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire là.
C'était une façon d'exprimer par une dichotomie réelle entre la musique et le thème qu'on peut parfois parler de choses qui sont un peu... qui bousculent, qui sont un peu dérangeantes, en mettant en face un rythme qui nous permet de digérer un peu plus le thème. Moi, c'était ma façon d'imaginer que ce thème pouvait être raconté sur quelque chose qui nous permettait de partir de manière un peu hypnotique dans une danse.
Parce que c'est vrai que quand on écoute bien les paroles, quand on lit les paroles comme j'ai pu le faire, elles sont assez tristes finalement. C'est un constat du monde qui est assez sombre.
Ouais. Et donc qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Est-ce qu'on peut simplement essayer d'être soi, d'irradier ce qu'on a de mieux? Et en effet, je trouve que le corps est un moyen assez, assez magique de traverser certaines choses. On dit que quand on a mal, que quand les pensées précèdent absolument tout ce que l'on fait, le mouvement du corps peut vraiment nous aider. Et c'est un peu ce que j'ai voulu écrire dans cette chanson. C'est pourquoi ne pas servir de ce mouvement pour essayer de passer à autre chose qu'à des pensées délétères.
Et c'est là où vous nous faites du bien et là où vous êtes nécessaire. Lara Fabian, Je veux danser, c'est le nouveau titre qui sort aujourd'hui de ce très bel album. On en avait parlé déjà dans cette émission. On va en reparler encore. Et puis
Europe 1.
Et vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30. Et ce matin, Thomas Hill, vous recevez Lara Fabian pour son nouveau single Je veux danser qui sort aujourd'hui. Il est tout chaud là, il sort à peine. Et puis la tournée de Lara Fabian qui reprend en mars à l'Accor Arena, notamment le 10 mars. Et ce titre, Je veux danser, on va l'entendre en intégralité avant 11h30 sur Europe 1.
Et puis avant l'Accor Arena, il y a Strasbourg le 9 mars, et puis ensuite Lille, Bruxelles, Bordeaux, Nice, Marseille. Vous enchaînez à une vitesse, moi je suis assez impressionné parce qu'à chaque fois ce sont des très grandes salles qu'il faut aller chercher avec votre voix puissante. Ça demande une discipline de fer, j'imagine, Lara Fabian.
Oui, j'ai la chance d'être très très bien entourée de ce point de vue-là. J'ai vraiment un coach vocal qui me suit tous les jours et puis je suis un peu... voilà, je dois dire que je suis un peu dure dans le sens où je ne déroge à rien de ce qui fait en sorte que ça ne compromette pas la performance, parce que je pense que les gens méritent d'avoir un artiste qui est en forme, méritent d'avoir un artiste qui chante leur chanson et comme ils ont envie de l'entendre. Et donc je pense qu'on a une vraie responsabilité par rapport à ça.
Ça vous est déjà arrivé de devoir annuler un concert?
Alors oui, ça m'est arrivé il y a longtemps maintenant quand même. Ça fait longtemps que j'ai pas annulé un concert, mais peut-être aussi qu'aujourd'hui, je prends tellement soin, j'ai tellement d'égards.
C'est quoi votre routine, justement, pour y arriver?
Alors, la routine, c'est que je ne dors jamais dans la ville où je chante, ce qui me permet d'arriver, même si j'arrive tard, je dors le plus possible dans l'autre ville. Ouais. Je travaille une heure le matin sur la voie. Je fais du sport, je mange...
Oui, enfin, vos villes, par exemple, quand on regarde votre tournée, le 17 mars, vous êtes à Bordeaux, 48 heures plus tard, vous êtes à Nice. Donc, vous ne faites pas en plus des villes qui sont très à côté. Donc, il y a ce voyage-là qui rajoute, j'imagine, à la fatigue et à l'épuisement de la voix.
C'est pour ça qu'il faut dormir dans la voiture. C'est pour ça qu'il faut, qu'il faut prendre soin de soi. J'ai plein de petites choses.
Puis vous parlez à personne.
Moi, je parle à de mon équipe. J'ai une équipe de fous. J'ai la chance d'être entourée par des merveilles d'êtres humains et de musiciens. Donc, ça aussi, ça porte. C'est-à-dire, arriver sur scène avec ces 14 personnes-là qui sont vraiment littéralement des êtres d'exception, ça aussi, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Et puis, devant moi, j'ai des milliers de gens incroyablement présents,
qui
merveilleux.
Vous aussi, ouais.
Oui, qui me portent vraiment, c'est grâce à eux.
Je retiens qu'il faut dormir beaucoup pour
dormir beaucoup, manger bien. Très correctement.
Il ne chantera pas, Olivier voilà. Pousse.
Et ne pas boire, Olivier, ne pas boire.
Ouais, ni boire, ni fumer. Bon, ça, c'est.
C'est là où le bas blesse. Allez, on va évoquer quelques souvenirs maintenant.
Ça a l'air très, très emmerdant, en fait. Quand je décris ce que je fais, c'est.
Ça ne vaut pas du rêve.
Mais qu'est-ce qu'elle fait, en fait?
Bah oui, mais c'est comme ça si vous voulez être applaudi par 12 000 personnes, Olivier.
Bah, j'ai renoncé.
Ouais, tant pis.
En même temps, je crois que Mick Jagger, il n'a pas trop la même hygiène de vie.
Oui, après,
finalement.
C'est des styles aussi.
Johnny, je pense, avait aussi un autre concept.
Il y a eu des pâtes chez Johnny, effectivement.
Mais ça dépend. Ça dépend. Je crois qu'il y a des moments dans la vie où on se dit, OK, alors on choisit entre faire ce qu'on a à faire ou ne pas le faire, finalement. C'est ça le choix.
Allez, on va évoquer quelques souvenirs en chanson maintenant, Lara Fabian. Et voici la première chanson. C'est ça les amis ou pas?
Bah c'est Pétula.
Pétula ouais, Clark.
Bien sûr.
Downtown. Parce que Lara Fabian, votre père, a été guitariste de Pétula Clark.
Ouais, c'est ça. Et choriste aussi. Ouais, il l'a bien connu. Il était tout jeune et c'était au tout début.
Ce qui veut dire que vous avez grandi dans la musique, quoi.
Alors, dans l'amour de la musique en tout cas, parce que très tôt, papa a décidé de faire autre chose de sa vie. Très très tôt d'ailleurs, il a un peu abandonné ce rêve-là. Mais c'est vrai que son amour pour la musique a toujours été très présent.
Et je crois que votre père, il vous accompagnait dès vos 14 ans, c'est
ouais,
ça, dans
c'est
vos
vrai.
Premiers concerts?
Dans les cafés-concerts, dans les jazz-clubs, dans les piano-bars, ouais, c'est vrai.
Et ils n'ont jamais eu peur pour vous, vos parents?
Tout le temps.
Cette célébrité
En fait, ils n'avaient pas tellement peur des conséquences, ils avaient peur de ce que peut être l'environnement, en fait, l'écrin de ce métier, qui n'est pas un écrin facile, parce que c'est quand même ça aussi, toute une dichotomie, que cet écrin versus la raison pour laquelle on fait ce métier au départ. Mais après, je crois qu'ils avaient confiance, en fait, dans l'éducation qu'ils m'avaient donnée, dans ce qui me portait au travers de cette éducation.
Et vous avez enregistré votre tout premier 45 tours en hommage à un grand artiste, Lara Fabian.
La Ziza est en pleurs, dans le vent du désert, le cœur et l'aventure.
Daniel Balavoine, à qui on pense beaucoup évidemment en ce moment, c'est un 45 tours que vous avez enregistré en cachette, je crois.
En fait, j'avais gagné un concours radiophonique. Et le prix, c'était d'enregistrer un premier 45 tours. Et donc, je l'ai fait effectivement un peu en cachette. J'ai écrit cette chanson-là avec Marc Lerche. Et puis, on est parti l'enregistrer. Et puis, voilà, je l'ai présenté à mes parents par la suite.
Tirage de 500 exemplaires.
Wow.
Vous les avez vendus ou pas?
Mais en tout cas, je pense qu'eux les ont vendus. Parce que c'était à l'époque, c'est radio. C'est une radio belge qui existe encore d'ailleurs, qui est la RTBF, qui était derrière ce radio crochet.
Non, mais ils valent une fortune maintenant. Celui qui a l'Aziza est en pleurs en vinyle à la maison,
c'est vrai.
Il est peut-être millionnaire.
Allez, encore une chanson.
Escalier
sans souvenir. C'est Vision of Love de Maria Carey. Pourquoi cette chanson, elle a été importante pour vous?
Probablement, mon premier face-à-face avec cette dextérité vocale qui m'impressionnait beaucoup. C'était pas ma culture à la base. Mes parents écoutaient d'autres voix, de Maria Callas à Nana Mouskouri à Barbara Streisand. Mais quand j'entends Maria Carey et j'entends cette incroyable acrobate de la voix qu'elle est, là je me rappelle avoir enregistré la chanson et avoir ralenti tous les passages où elle descend plus de 18 notes en 2 secondes pour comprendre comment elle faisait techniquement. Et en fait, ça ne s'apprend pas. C'est une disposition musculaire.
Un don.
Ouais, c'est un véritable don. Alors oui, vous pouvez créer des espaces dans lesquels vous apprenez comment techniquement ça se fait, mais quand on a une musicalité comme celle-là qui vient du blues, du R&B, de la musique noire, en fait, c'est quelque chose qui est presque cellulaire, qui est presque génétique. Et j'ai dû chanter cette chanson dans la cage d'escalier, mais jusqu'à l'écœurantoum. Je pense que mes parents n'en pouvaient plus de m'entendre faire à la fin, ils n'en pouvaient plus. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Viens, on écoute Barbara Streisand.
Pourquoi dans la cage d'escalier?
Parce que ça résonne.
Oui, ça résonne.
Parce que ça résonne. Donc je me mettais assise avec. Je m'habillais parce qu'il faisait très froid dans cette cage d'escalier avec un gros pull, une écharpe et je m'asseyais là et ça résonnait. Et j'arrivais à peu près à le reproduire.
Il y avait des voisins dans la cage d'escalier?
Oui, mais ils ne me supportaient pas.
Ils ont tous déménagé.
Ils m'appelaient le mal de tête qui marche.
C'est charmant. Justement, vous parliez de Barbara Streisand. C'est Woman in Love, mais alors, je crois que vous l'avez rencontrée plusieurs fois, parce que c'était vraiment un modèle pour vous.
Oui, c'était un modèle pour moi, j'ai eu le privilège de la connaître, et puis de la rencontrer aussi à l'intérieur d'un espace très personnel, puisqu'elle a voulu chanter une de mes chansons, elle a eu l'incroyable... geste de venir vers moi pour me demander les partitions de cette chanson que j'avais coécrite avec Walter Afanasieff qui s'appelle Broken Vow.
C'est ça, Broken Vow. Ouais. On l'a. Et elle a repris cette chanson.
Ouais, elle a repris cette chanson en live et ça a été fou quand même de d'être face à cette immense.
Mais tellement fou que je crois que la première fois qu'elle vous a appelé, vous y avez pas cru en fait.
Oui, j'ai raccroché, je vous jure. Non mais la blonde dans toute sa splendeur. Oui, ça a été assez fou et je vois la tête de mon manager. Vraiment, vous avez le moment Tex Avery où son visage tombe et il me fait tu as raccroché. Je dis bah ouais, ça va.
Le menton sur le bureau.
Ouais, non mais stressante, ça va. Dira c'est stressant. Il y a deux secondes après, le téléphone a ressonné. Grâce à Dieu, you didn't believe me, right? Non, je ne te croyais pas. I was calling you for the charts of Broken Vow. J'ai halluciné. Ouais.
Je t'appelais pour reprendre ta chanson, c'est quand même assez génial. Allez, une dernière chanson. I close my eyes and I find a way. No need for me to pray. I walked so far to fall. Ça, c'est votre fameuse Adagio, Lara Fabian. Et alors, j'ai appris que Michael Jackson vous a invité à chanter sur scène lors d'un spectacle unique à New York. Et pendant que vous chantez cette chanson, Adagio, il vous a même glissé un petit mot à l'oreille.
Ouais, ça a été fou. Il est monté sur scène, en fait, pendant la répète. Et il m'a vraiment pris dans ses bras. Et il m'a dit quelque chose de tellement touchant. Voilà. Je ne sais pas si ça se répète, parce que ce n'est peut-être pas utile, mais c'était...
Si, ça me semble
utile, on a envie de savoir,
semble...
hein, nous, on est très curieux, hein, Lara.
Il m'a dit, you sound like an angel.
Ah ouais.
I'm deeply touched. J'étais assez bouleversée.
Votre voix sonne comme celle d'un ange, ouais. Et je suis profondément touchée. Ouais. Ben voilà, c'est magnifique, ouais. C'est quand même génial.
Oui, il y a des moments, quand même, on se repasse le film.
Oui, quand même.
Parce que c'est assez
Michael
fou.
Michael Jackson.
Ouais. Et à la fin, on était tous l'un à côté de l'autre. Il y avait de Whitney Houston à Beyoncé à Jackson. Et on faisait les chœurs pour, dans cette chance, cet incroyable événement qui s'appelait Miracle on 42nd Street, qui est le fameux concert organisé chaque année au profit des enfants défavorisés de New York.
Et alors, est-ce que du coup, vous avez rencontré toutes vos idoles? Parce que là, ça en fait quand même un bon paquet. Hein.
Ça en fait quelques-unes.
Il en reste
ouais.
encore que vous rêveriez de croiser?
Ah, ben il y a plein de gens qu'on rêve toujours de croiser, bien sûr. Sting, par exemple, c'est quelqu'un que j'ai croisé très, très rapidement.
Il sera bientôt à Paris, vous le savez, ouais. 18 février.
Ouais.
On peut vous organiser ça.
Avec plaisir.
Nous, on a son 06.
Eh bien, quand vous voulez.
Sting, pas de problème, on s'en occupe tout de suite.
Il écoute d'ailleurs tous
les matins. Il écoute Culture Média.
Il est très très fidèle de Culture Média.
Hello Sting.
Hi Sting. Allez, dans un instant, Adrien Bagé.
J'ai pas la pression, on l'a pas du tout.
Oui, c'est sympa de passer après Michael Jackson et Sting. Et alors là, on va parler d'un sujet sérieux dans un instant, le cinéma iranien, parce que c'est un cinéma qui arrive à rayonner partout dans le monde, malgré la censure du régime, et on avait envie de comprendre comment et pourquoi. Ce sera dans un instant sur Europe 1, ne bougez pas.
Europe 1.
Et vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h-11h30 tous les jours sur Europe 1 avec Thomas Hill et avec ce matin Lara Fabian pour son tout nouveau single qui sort aujourd'hui. Allez l'écouter, le télécharger, l'acheter. Je veux danser, ça sort aujourd'hui. Puis il y a la tournée dans toute la France le 9 mars à Strasbourg et le 10 mars à l'Accor Arena à Paris.
Et alors il y a quelques semaines, le grand Serge Lama était à votre place, Lara Fabian. On a eu une émission formidable avec nous et il nous a parlé notamment d'une émission qui lui était consacrée sur France 3, une émission à laquelle vous avez participé, Lara, et je voulais vous dire combien vous m'aviez ému ce soir-là avec cette magnifique reprise de Je suis malade.
Je suis malade, complètement malade, comme ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec.
C'était sur France 3 il y a quelques semaines et on voyait l'émotion de Serge Lama qui vous regardait, qui vous applaudissait.
Et la mienne donc.
Et là, vous ne l'aménagez pas votre voix là.
Mais là, elle est dans l'expression la plus, comment dire, la plus vaste de mon émotion. Mmh. C'est-à-dire, là, on n'est plus du tout ni dans la technique, ni dans la volonté d'une puissance. On est en fait dans la puissance qui nous précède lorsqu'on est complètement bouleversé par une émotion. C'est ça qui se passe. En fait, on est secoué de l'intérieur et la voix est l'expression de ce bouleversement. Et puis être face à Serge, lui qui a été le premier à me faire venir en France quand j'avais 25 ans. En fait, ça a été le premier, le 28 janvier 1995, bien avant en fait qu'il ne se passe quelque chose sur la France. Il m'invitera au Palais des Congrès.
Parce qu'il avait détecté chez vous quelque chose.
Parce qu'il avait entendu la version au Québec. Et il m'avait appelé, il m'avait dit voilà, je souhaiterais te connaître, te rencontrer. Et il m'avait dit une chose incroyable. D'abord, il m'avait fait rechanter, donc on l'a chanté en duo. Et puis à un moment donné, on finit la prestation au Palais des Congrès. Il se recule, il me dit maintenant, je vais aller m'asseoir dans la salle et tu vas la rechanter pour mon public. Ça a été un moment incroyable.
C'était magnifique, vraiment. Je voulais vous en remercier parce que c'était un moment incroyable et je vous invite à tous à aller revoir ce passage parce qu'il est sur les réseaux, donc voilà, sur YouTube. Allez, je me tourne maintenant vers Adrien Baget parce que malgré la répression qui continue en Iran, eh bien il existe un cinéma iranien vivace, engagé, qui arrive à s'exporter à l'international malgré la censure. Et vous vouliez nous en parler ce matin, Adrien.
Oui, Thomas, c'est un cinéma iranien qui a réussi à percer le mur du son ces dernières années. Alors, grâce en partie à des événements très prestigieux, je pense notamment à des festivals internationaux par exemple, notamment le dernier festival de Cannes qui a remis sa palme d'or au cinéaste iranien Jafar Panahi pour son film Un simple accident, un film assez magnifique, peut-être que vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage vraiment à le voir. Il raconte le dilemme d'un homme qui sort de prison, qui pense reconnaître son ancien bourreau dans la rue, et qui veut se faire justice. C'est une satire du régime des Mollahs, et c'est aussi une analyse très fine de la société iranienne. Écoutez les mots du réalisateur qui venait de recevoir sa palme d'or, c'était en mai dernier.
Le plus important en ce moment, c'est notre pays et la liberté de notre pays. Le cinéma, c'est comme la société. Personne n'a le droit de nous dire ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire.
Voilà un film placé sous le signe de la liberté et qui depuis eh bien, cumule les récompenses. D'ailleurs, il pourrait bien représenter la France aux Oscars en mars prochain. Oui, on aura la réponse jeudi.
Représenter la France
Absolument. Ouais.
Voilà. De quelle façon?
Alors, c'est la France qui fait le choix de porter
ce film. Parce que ce film a été financé par des producteurs français notamment, c'est ça?
Absolument, ça a son importance parce que toute cette visibilité, eh bien, c'est un moyen pour les cinéastes de s'assurer des financements venant de l'étranger dans le cas de ce film-là de la France. Et donc, on aura la réponse jeudi pour savoir s'il sera sélectionné. Voilà, absolument.
Ce serait magnifique. Et alors, au-delà de ce film, comment est-ce qu'on peut expliquer, Adrien, le succès critique en France, mais aussi à l'étranger, du cinéma iranien? Si je le disais tout à l'heure, ça rayonne partout dans le monde.
Eh bien, Thomas, parce que c'est un cinéma puissant, libre, engagé et surtout d'une grande diversité. Il y a de nombreux réalisateurs iraniens qui n'hésitent pas aujourd'hui à faire du cinéma de genre. Alors, je vous laisse imaginer tous les risques que cela comporte. Prenons par exemple le film La loi de Téhéran, sorti en 2019, qui a connu un vrai succès en France. Le réalisateur Saïd Roustaï n'hésite pas à montrer une société gangrénée par le trafic de drogue en adoptant les codes du polar à l'américaine. Alors, résultat, c'est un film choc à voir, qui montre les failles du régime, mais qui surtout, le plus important, n'oublie pas de faire du cinéma.
Ouais, et puis c'est d'autant plus fort parce qu'il faut expliquer aussi, Adrien, que la censure du régime, ça rend souvent les conditions de tournage extrêmement difficiles en Iran.
Oui, chaque cinéaste doit s'engager à respecter la norme islamique. Tenez-vous bien, pas de femmes sans voile, pas de gros plans sur le visage des femmes. Et surtout, le réalisateur doit obtenir un permis délivré par le ministère de la Culture et de l'orientation islamique. Le réalisateur iranien Mohammad Rasoulov, qui vit aujourd'hui en exil en Europe, a même dû diriger ses acteurs à distance pour son film Les graines du figuier sauvage, sorti en 2024. Écoutez-le, c'était au micro d'Arte.
Quand moi j'étais dans une voiture garée non loin de là où les scènes étaient tournées, donc j'avais mon moniteur et je donnais des instructions à mes assistants et à mon équipe à distance. Parfois cette distance a été encore plus longue puisque je n'étais carrément pas sur place et c'est en visioconférence par internet que j'ai pu recevoir les images et diriger et faire mon travail.
Voilà, tourner en visioconférence, je ne sais pas si on peut s'imaginer comment faire un film dans ces conditions-là. Et alors il faut dire que ces tournages clandestins, eh bien, c'est souvent le système HD qui prime, et qui préduite absence d'autorisation, et même tourner à l'iPhone, ça se fait de plus en plus. Mais tourner sous le manteau, Thomas, eh ben, ça n'empêche pas d'être condamné. On en revient à Jafar Panahi, qui malgré son absence, eh bien, a été condamné en décembre dernier à un an de prison pour activité de propagande contre l'État, avec une interdiction de voyager pendant 2 ans.
Merci Adrien Baget, qui avait envie effectivement, et vous avez raison, de nous parler du cinéma iranien qui arrive une
Merci
fois à rayonner partout dans le monde.
Europe 1.
Et vous écoutez Culture Média, 10h-11h30 sur Europe 1, avec Thomas Hill, avec Lara Fabian ce matin, pour son tout nouveau single, sa toute nouvelle chanson « Je veux danser ». Ça y est, elle est disponible depuis quelques heures maintenant, elle vient de sortir. Et puis une tournée à travers toute la France qui reprend le 9 mars à Strasbourg, le 17 mars à Bordeaux, le 25 mars à Saint-Étienne et le 10 mars à l'Accord Arena à Paris.
Ça terminera à Bruxelles le 12 novembre, voilà, juste après Genève. Et alors, on a pu vous voir aussi, Lara, et vous entendre aussi récemment sur la 200e de la Star Academy. Vous avez partagé un magnifique duo avec Victor sur votre tube La Différence.
Sans jamais parler, sans jamais crier, ils s'aiment en silence. Sans jamais mentir, ils se retournent.
On n'a jamais chanté aussi doucement.
Oui, oui, on ne veut pas pourrir la chanson.
Actuellement, Thomas chante toujours. Mais je ne sais pas ce qu'il y a.
C'est pas possible.
Pas les malins.
Non, parce que Victor aussi est un très très bon chanteur, il faut le dire. Vous avez craqué un peu sur Victor depuis le début, je crois.
Absolument. J'ai toujours tout de suite, j'ai vu que ce garçon avait ce petit supplément d'âme et cette voix incroyablement musicale. Il a une grande musicalité dans la voix et puis il a un timbre vraiment très reconnaissable. J'aime beaucoup ce garçon.
Et là, il est en demi-finale face à Ambre. Alors, personnellement, depuis le premier prime, j'ai pronostiqué la victoire d'Ambre. Hein, ouais. Donc voilà, on verra bien à l'arrivée.
Mais le niveau est tellement élevé.
Vous pensez qu'il va gagner, Victor ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est assez ténu comme choix. C'est difficile de faire un choix qui se base sur des critères qui devraient définir le talent de l'un ou de l'autre. Ouais. Ils ont tellement de talent tous les deux, sur des critères complètement différents. C'est pour ça, moi, je trouve parfois, de mélanger les garçons et les filles, c'est pas toujours équitable. Je me souviens de la Star Academy au Québec, au début, il y avait le gagnant fille et le gagnant garçon. Et ça permettait d'avoir deux gagnants, d'une part, et puis d'avoir des catégories qui pouvaient se distinguer et qui ne devaient pas souffrir des avantages ou des désavantages de l'un ou de l'autre.
Puis ça dépend du choix d'une chanson, parfois. On peut faire le mauvais choix qui vous fait
Ou de l'instant
perdre.
L'instant de stress qu'on peut gérer mieux, parfois, que l'autre. Donc, ouais, je sais pas. Moi, je les vois tous les deux très gagnants, de toute façon, bien au-delà de ce programme.
Oui.
Pour les artistes qu'ils sont.
On entendra parler d'eux, ça, c'est sûr.
Je pense que c'est des gens qui vont faire beaucoup de chemin.
Et alors, est-ce qu'on entendra parler des talents que vous avez croisés sur The Voice ? Parce que vous avez enregistré The Voice, la nouvelle saison qu'on verra
pendant
bientôt. Pendant la tournée.
Ouais.
Ah oui, vous faisiez ça en parallèle, bien sûr, ça a dû être quelque chose, ça aussi.
Je finissais à Bruxelles et je conduisais dans la nuit du Forêt National au studio de The Voice. J'étais rétamée la madame le matin, mais quand même.
Et alors, vous avez vu des talents de dingue encore ?
Incroyable. Alors, le niveau cette année.
J'ai l'impression qu'on dit ça tout le temps.
Non, je crois que cette année, vous allez être très surpris.
Ah ouais ?
Oui. Vraiment.
Pourquoi vous aviez fait qu'une saison à l'époque de The Voice ?
Eh bien, moi, je vivais au Québec et il s'était passé qu'on était en plein Covid et je n'ai pas pu revenir. En fait, je n'ai pas pu revenir, les frontières étaient fermées.
Ah, c'est ça.
Ouais, il y a eu vraiment un problème géopolitique et géographique.
Et alors là, ça va être avec Marc Lavoine. Non, alors c'était avec Marc Lavoine, c'est ça,
à l'époque. C'était Lavoine, Obispo
et Amel Bent, je crois. Ouais,
voilà.
C'est ça. Et alors cette année ?
Cette année, on est avec Taïk.
Ah oui, le petit nouveau.
Amel. Ouais. Et Florent.
Qui revient. Florent. Et Florent
très, très
pour sa
de
dernière saison, normalement.
Ouais.
Ce qu'il a dit, en tout cas.
Oui.
Mais c'est jamais trop
la
sûr.
La dernière jusqu'à la prochaine.
Oui, c'est ça. Mais on a hâte de voir ça. Ce sera bientôt sur TF1. Allez, on va jouer maintenant. On va jouer avec un auditeur aux 3 ou rien. Et vous connaissez la règle. 3 bonnes réponses ou sinon, vous ne gagnez rien.
Oui, on vous offre un séjour pour deux. Écoutez bien, toute cette semaine et chaque jour, hein, un séjour pour deux à l'hôtel 5 étoiles Thalasso Spa de l'île de la Lagune. C'est à Saint-Cyprien. Alors, je peux vous dire, allez voir les images. Hein. C'est fabuleux. C'est un relais château. C'est une véritable oasis méditerranéenne qui est nichée au milieu des jardins fleuris. Je vous conseille d'aller voir les images parce que cet établissement 5 étoiles, il offre du confort, certes, de l'élégance, certes, de la détente, mais pas que. Il y a un spa marin qui est placé sur le rooftop de l'hôtel 5 étoiles. Ça y est, vous y êtes là dans le spa marin. Allez, on y
est. C'est où Saint-Cyprien? Je suis en train de regarder.
C'est dans le sud, Pyrénées-Orientales, Saint-Cyprien.
Ah oui, c'est ça.
C'est dans ce coin-là. Bon, alors écoutez bien, parce qu'Europe 1 ne vous a pas réservé que l'hôtel. Europe 1 vous a réservé 3 soins d'hydrothérapie par personne. Et puis sur place, il y a le restaurant étoilé l'Allemandin avec son chef étoilé Frédéric Baquier qui vont régaler vos papilles, où il mixe les richesses du terroir et le bassin méditerranéen. Bon, c'est fabuleux. Allez voir ça sur hôtel-île-lagune.com.
Et c'est offert pour deux, évidemment.
Ah bah oui, on va pas y aller tous.
J'espère que je vais pouvoir y aller avec Thierry. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Bienvenue,
Thierry. Vous nous appelez.
Bonjour Thomas, bonjour toute l'équipe. Et puis bonjour Lara, bien entendu.
Bien sûr. Vous nous appelez de quel coin de France, vous, Thierry?
J'appelle de Normandie, de Fécamp, exactement.
Ah, il va falloir faire quelques kilomètres pour aller à la Thalasso. Alors,
c'est à l'opposé.
3 jours de voyage.
Ça fait du bien.
Mais je pense que ça vaut le coup. Thierry, qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je suis retraité, mais j'étais enseignant. J'étais professeur d'histoire et de géographie en collège.
Ah, prof d'histoire géo. On les aime bien en général, les profs d'histoire géo.
1515
Marignan, bien sûr.
Oui, ça va, mais François, c'est pas premier. Dans les programmes 1515.
Ah, c'est pas dans les programmes. Allez, ben, excusez-moi.
Allez, bim.
Moi, les programmes, ils étaient en noir et blanc à l'époque. Hein.
Vous faisiez collège et lycée?
Oui, j'ai fait les deux, oui.
Les deux, ah, très bien. Et alors, qu'est-ce qui est le plus dur?
C'est pas le lycée ou le collège, c'est certaines classes. La seconde n'est pas terrible, la troisième n'est pas terrible, ils sont un petit peu excités à leur âge.
Légèrement.
Quand on a des Thomas Hill dans la classe.
Ça aide pas. Ah bah oui, ça je peux vous dire qu'il y a quelques profs qui m'aimaient pas trop. Bon, alors Thierry, attention, j'ai 3 extraits sonores pour vous. Si vous reconnaissez les 3, c'est gagné. C'est parti.
Alors on danse.
Thomas Hill.
Il y a un petit fil rouge, Thomas. Hein.
Ah oui, il y a un petit fil rouge.
Vous feriez danser avec les stars, Lara Fabian?
On m'a appris à cultiver mes forces. Ce n'en est pas une.
C'est très honnête de votre part. Alors Thierry, qu'est-ce que vous avez reconnu? Je vous écoute. D'abord le chanteur.
Pour ce qui est du chanteur, je pensais à Stromae.
Stromae,
oui,
bien
c'est
sûr.
Ça.
Bien sûr. Ensuite, le film.
Le film, je pensais à Fame.
Alors c'est l'autre.
Ah non.
Ça commence par la même lettre. Il y avait Faye, mais il y avait Juste au corps aussi, avec des guêtres, elle dansait, tout ça.
Flashdance, il y avait
Flashdance. Oui, ouais, c'est Flashdance. Oui, c'est Flashdance, ça aussi on aimait. Et alors, ça va être très dur, le générique télé.
Il vient de donner la réponse, Thomas.
Eh ben, c'est Fame.
Non.
Ah non, le générique télé.
Il vient de demander à Lara Fabian.
Danse avec les stars.
Effectivement, ma question est arrivée un peu tôt. Vous feriez danser avec les stars, Lara Fabian?
Ouais, bon, bah, c'est la réponse à la question.
Il ne reste plus qu'à retrouver votre maillot, c'est
facile. Bravo, Thierry.
Bon, bravo, Thierry. Il va falloir prendre la voiture, le train, l'avion, ce que vous voulez, entre Fécamp et Saint-Cyprien, puisqu'on est très heureux de vous offrir ce séjour pour deux personnes. Alors, Thomas se rend disponible.
Bien sûr, je suis disponible.
Voilà, vous pourrez y aller tous les deux. Deux personnes
avec
à l'hôtel 5 étoiles Thalasso Spa de l'île de la Lagune à Saint-Cyprien, relais château.
Voilà, Thierry.
Ah, c'est formidable. Merci beaucoup à l'émission. Merci à vous tous.
Vous allez vous régaler, Thierry.
Vous nous raconterez un peu les soins d'hydrothérapie, tout ça.
Je serai peut-être dans ma bulle. Hein.
Il sera avec sa boue, là. Laissez-le tranquille, ce pauvre Thierry. Allez, on vous embrasse. Merci d'avoir joué avec nous. À bientôt.
Salut, Thierry.
Merci à vous. Gros.
Bise à Lara Fabian, c'est ça que vous voulez dire.
Bon, si vous voulez vous aussi tenter votre chance, tiens, demain, nouveau séjour, Thalasso, 5 étoiles, vous pouvez vous inscrire dès maintenant, vous envoyez Media, M-E-D-I-A-S par SMS au 739-21 et on vous rappelle très vite.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de Culture Média avec Lara Fabian et l'un de vos plus grands fans, Lara, il s'agit d'Olivier Pouls. Oui. Mais lui, c'est pas tant votre partie musicale qui l'intéresse.
C'est votre partie cordon bleu.
J'ai eu peur.
On en parle dans un instant.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et avec Lara Fabian ce matin pour son nouveau single, sa nouvelle chanson Je veux danser qui sort aujourd'hui. Et vous avez rendez-vous avec Lara Fabian le 10 mars à Paris, l'Accor Arena, et puis le 21 octobre, tiens par exemple à Nantes.
Et vous allez entendre ça notamment. Signé Slimane.
On l'a écrite avec Slimane.
Ensemble. Ouais. Je crois que c'était le premier extrait de cet album. Je suis là. Album qui est une forme de renaissance pour vous, j'ai l'impression, Lara Fabian.
C'est
vrai. En tout cas, le public est de nouveau au rendez-vous. Je pense que ça va vous faire beaucoup de bien, ça.
Ah, c'est magique. C'est un grand cadeau. C'est ça, en fait, la chose la plus difficile, c'est durer.
Ouais.
Et donc, il y a cet alignement qui se fait parfois, où les choses reviennent d'une certaine manière, en fait, comme si elle ne s'était jamais évaporée.
Oui.
Comme si juste le temps d'un moment de nos vies qui est un peu particulier et assez insaisissable, quelque chose se transformait. Mais moi, j'ai la conviction que c'est parce que nous, on se transforme. Que quelque chose irradie, émane de nous et crée à nouveau ce lien.
Mais c'est vrai que ça reste toujours mystérieux. Pourquoi certains albums rencontrent le public, d'autres non,
moins.
On ne sait pas.
C'est vrai. Ouais.
Et c'est en même temps la magie de ce métier que vous faites. Lara, vous connaissez évidemment Olivier Pouls.
Notre Belge.
Notre Belge national qui a absolument tenu à venir aujourd'hui, hein, sachant que vous étiez là. Et je crois que c'est, on peut le dire, vous êtes un fan absolu.
Ouais, oui, fan absolu évidemment de la chanteuse, mais avant tout aussi fan de la cuisinière, de l'amoureuse de la table, de la bonne vivante que vous êtes. Un statut que vous assumez, bravo, hein, pas comme toutes celles qui viennent ici et qu'il faut ensuite amener en réanimation quand je sors un pâté de campagne à 10h48.
C'est vrai que c'est
vrai.
On a eu quelques échecs, effectivement.
Et,
ouais,
et c'est vrai que la dernière fois que vous êtes venu, j'avais évoqué votre livre de cuisine, parce que vous en avez écrit un, il était sorti en 2022, Lara passe à table, contenant des recettes, mais aussi des anecdotes, une manière de revenir sur votre vie bien remplie, entre, on en a parlé, la Belgique, l'Italie, le Québec, Belgique, où tout a commencé pour vous, comme pour moi d'ailleurs. Un pays aux nombreuses spécialités, dont ce plat que je vous ai apporté là. Je me suis levé ce matin à 7h30 pour vous le préparer.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Ça s'appelle un stoump. Et ça s'écrit S-T-O-E, parce que O-E en belge, ça fait
où?
M-P.
Ah, un stoump. Ça, c'est bien pour les
croisés. C'est un plat paysan né dans les campagnes du 19e siècle et que je crois, Lara, vous aimez particulièrement.
J'aime particulièrement ce plat. Alors, ma maman était italienne, comme vous le savez. Donc, elle a appris à faire le stoump par adhérence, en fait. Ouais. C'est la voisine qui lui a appris à faire
le
stoump.
C'est le stoump.
Voilà. C'est le stoump. Et en fait, c'est un peu la potée en France. Hein. Une potée où on mélange un légume et une pomme de terre. C'est ça l'idée.
Mais et on écrase le tout.
Et on écrase le tout. Mais la particularité du stoump, c'est qu'on le fait avec des légumes de saison. Mon préféré à moi, c'est avec les poireaux.
Eh bien, ça tombe bien. Regardez ce que vous avez devant vous, un stoump aux poireaux. Et je peux dire que là aussi, vous convoquez mon enfance et c'était un de mes plats préférés. J'embrasse d'ailleurs ma maman qui fait le meilleur stoump du monde, évidemment. Et vous le validez?
À 100%.
Bon,
alors,
je croyais que c'était de la compote.
Eh bien, si vous voulez, on va partager la recette avec nos amis qui nous écoutent et nos amis autour de la table. En plus, c'est hyper facile à faire. Il vous faut 600 grammes de pommes de terre, pommes de terre à purée, 4 blancs de poireaux. Alors, on insistait avec Lara, prenez pas le vert, prenez juste le blanc de poireau.
Comme souvent,
150 grammes de beurre, ça c'est pour la gourmandise. Une petite pointe de muscade.
150 grammes, c'est de la muscade.
Exactement.
C'est une noix de beurre. Oui.
Dans certaines versions, il y en a qui rajoutent une petite cuillère de moutarde aussi, ça peut être pas mal. Et puis moi je rajoute 20 centilitres de lait pour lui donner un côté un tout petit peu plus onctueux. Voilà. Donc on épluche les pommes de terre, on les coupe en morceaux, on taille les blancs de poireaux. On fait cuire le tout dans un peu d'eau, pas trop. Parce que l'eau sinon elle va... tout va devenir un peu flottard et puis c'est l'eau qui va prendre le goût, les nutriments et ça vous le jetez forcément, donc
pas trop d'eau.
On égoutte, on écrase au presse-purée, on ajoute le beurre, le lait, la muscade et puis un petit accompagnement derrière. Moi, c'était des saucisses. Moi, c'était des saucisses grillées. Mais alors, vous faites une version, là, qui est un petit clin d'œil au Québec, c'est du lard laqué au sirop d'érable.
Un lard laqué au sirop d'érable, et je le mets sur la purée. Et moi, les légumes, je les cuis à la vapeur dans un autocuiseur.
Ce qui permet de garder vraiment le goût. Et puis, évidemment, on peut le faire aussi avec d'autres légumes de saison. On a la carotte. Aux épinards, par exemple.
Oh, c'est moins bon quand même. Le poireau, le sucré du poireau,
pour moi, c'est mon préféré.
Mais il y a toujours de la patate. La base, c'est quand même la patate.
Oui. C'est pommes de terre avec un légume cuit ensemble et
donc
ensuite écrasé.
Donc vous disiez carottes, poireaux, épinards, quoi. Navet, oui, on peut mettre ce qu'on veut, en fait.
Le navet, c'est peut-être un peu amer. C'est un peu pas sûr que ça marche.
Oui, c'est un peu capiteux comme goût. Franchement, essayez le poireau dans un premier temps.
Tenez-vous au poireau.
On va s'en tenir au poireau. Très bonne recommandation.
On va faire un t-shirt de cette phrase.
Merci.
Je choisis le poireau. Voilà.
Allez, pour finir l'émission, et sans transition, je propose qu'on écoute maintenant votre nouveau titre, Lara Fabian. Je veux danser, écrit donc avec Vita. Ça sort aujourd'hui. Et vous êtes les premiers à l'entendre ce matin sur Europe 1.
Ça fait du bien de bouger là sur ce son de Lara Fabian. Très réussi. Nouveau morceau de Lara Fabian, Je veux danser, que vous découvrez depuis aujourd'hui, ça fait quelques heures et déjà sur Europe 1 évidemment.
Et je me trompe, ou est-ce qu'on entend un petit peu de Vita sur ce titre ?
Oui, elle me fait l'honneur de ses petites voix au début magnifiques dont seule elle a le secret, ce son immédiatement reconnaissable. Merci vraiment, je suis très très heureuse. Merci à elle. Si elle m'écoute, si elle m'entend, je lui dis juste que je l'aime et que cette chanson est trop belle. Je suis trop heureuse d'avoir pu collaborer avec cette personne.
Elle est formidable, Vita. Et d'ailleurs, si elle souhaite venir un jour à cette émission, on serait très heureux de l'accueillir parce que c'est une grande artiste.
Je ferai du stomp.
Mais on pourrait revenir toutes les deux.
Ah, mais ce serait génial. Ce serait trop beau.
Et on pourrait la chanter ensemble cette chanson finale.
Avec grand plaisir. Et vous allez la faire sur scène, j'imagine, évidemment. Je veux danser, c'est votre nouveau single, Lara Fabian. Et votre album Je suis là, qui est toujours disponible, et cette tournée des Zéniths en mars, et l'Accor Arena, un nouvel Accor Arena, seulement le deuxième finalement, pour Lara Fabian, ce sera le 10 mars. Allez-y, vous allez passer une soirée de fou. Merci beaucoup Lara d'être venue ici.
Merci à vous tous de votre bienveillance, votre gentillesse, et que dire de ce stoup.
Vous m'avez fait ma journée.
Trop bon, rempli de tout le beurre dont on a besoin. Ouais.
Voilà, c'est ça. Et de tout l'amour dont on a besoin, qu'on l'amour. Met dans la cuisine quand on la partage.
On va finir le topper, ouais, là.
C'est délicieux, on va le manger.
C'était Culture Média avec Thomas Hill, que vous retrouverez tout à l'heure en direct sur Europe 1 de 10h à 11h30. Et ne manquez pas vendredi notre émission spéciale en public pour la 500e de Thomas Hill. Allez, c'est la fin de nos programmes de nuit. Il est bientôt 5h. Vous avez rendez-vous dans un instant avec Alexandre Lemaire pour votre premier rendez-vous d'infos de la journée. Europe 1, bonjour. Et puis, on va se quitter comme toujours en musique avec aujourd'hui une chanteuse américaine qui s'appelle Carly Tappan et ce titre, Seventeen.
As time goes by, it's been a blink of an eye. Can't help but wonder if it's finally our time. Looking in the mirror, wishing you'd be behind. And years feel like hours, why can't I just stop time? We were young and blind, but I'm still holding on. And when I think about 17, it starts to hurt. I know I tried my best, but that just never worked. So tell me, do you think about me when you're with her? That shouldn't cross my mind. Can you just tell me why? Why you left me here broken? All these tears to fill an ocean. All my questions left unspoken. 21, but I'm still hoping. Will we ever have a moment? Or will we ever have?
Sur Europe 1 avec 17. On souhaite la bienvenue aux auditeurs d'Europe 1 qui nous rejoignent à l'instant. C'est l'heure de l'info et c'est l'heure surtout de laisser la place à Alexandre Lemaire. Bonjour Alexandre.
Bonjour Marlène, bonjour à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs. C'est un plaisir de vous retrouver. Europe 1, bonjour. 5h-7h, ce mercredi matin, avec Marion Gagnon à mes côtés.
Et
bonjour,
oui,
Marion.
Bonjour à tous.
La tendance météo ce matin?
Très très agitée la météo aujourd'hui à l'ouest, ce sera plus calme à l'est.
Vous nous le détaillez dans un instant. Europe 1, bonjour. Dans l'actualité de ce mercredi 21 janvier, l'information de la nuit. D'abord, ce nouvel accident de train en Espagne. Oui, deux jours seulement après un dernier tiraillement meurtrier en Andalousie. Cette fois, eh bien, c'est en Catalogne. Un train a percuté un mur effondré sur les voies. Au moins un mort et plus de 30 blessés. Donald Trump va prendre la parole tout à l'heure à Davos en Suisse, ce qui promet beaucoup de tensions à ce forum économique mondial où sont présents aussi, bien sûr, les Européens, Emmanuel Macron. La crise du Groenland, son très personnel conseil de la paix boudé par la France, Donald Trump menace maintenant les vins français de 200% de droits de douane. Alors, ce serait la catastrophe pour nos viticulteurs, vous l'entendrez avec mon invité Jean-Marie Fabre, président des vignerons indépendants de France. Il sera avec nous dans un peu plus d'une demi-heure à 6h20 sur Europe 1. Votre histoire dingue, Marion.
Des millions de frites échouées sur une plage en Angleterre, c'est mon histoire du jour.
Que vous nous racontez dans un quart d'heure. À la une du JD News ce mercredi, Emmanuel Macron, un président à bout de souffle. Enquête cette semaine sur les coulisses de la fin de son quinquennat et que vous raconte Jules Torres dans 10 minutes. D'abord le temps pour ce 21 janvier, Marion, qui sera très perturbé sur les régions de l'Ouest.
Oui, et particulièrement sur le Nord-Ouest. De la Bretagne et des Pays de la Loire jusqu'à la Normandie, dès le lever du jour, actuellement d'ailleurs, il pleut déjà, le ciel est très encombré, on a des passages pluvieux qui vont se succéder toute la journée et ils seront soutenus par moments avec de gros cumuls de l'ordre de 50 à 60 mm en 24 heures sur le Finistère et le Morbihan. Donc les deux départements sont placés en vigilance orange pluie inondation et le Finistère est également en vigilance orange pour crue. Donc prudence en Bretagne et puis ajoutez à cela du vent très très fort sur le Nord-Ouest aujourd'hui. Ailleurs, alors toujours à l'ouest de la Nouvelle-Aquitaine au centre-Val de Loire, eh bien il va pleuvoir également, alors un petit peu moins mais quand même. Tout le flanc ouest du pays sera sous la pluie aujourd'hui. Sur le reste du pays, beaucoup de nuages, encore des brouillards parfois givrants en Alsace-Lorraine, sur le Val-de-Saône aussi. Ça va être beaucoup mieux du côté du Jura, du côté de la Provence-Alpes-Côte d'Azur aussi. Vous allez avoir du soleil cet après-midi en Corse aussi. Vraiment, c'est sur ces régions que le temps sera le plus agréable. Sur les Cévennes, encore un petit peu d'humidité aujourd'hui. Côté température, alors elles seront forcément plus douces à l'ouest qu'à l'est. À l'est, c'est bien dégagé. Donc là, il fait plus froid. Vous aurez 4